Gloire au Seigneur, alléluia. Bien. Nous allons revenir à notre thème, car il y a encore beaucoup de choses à voir dans cette parabole qui a été la réponse du Seigneur à la question, à la requête, à la prière des apôtres ce jour-là. Seigneur, augmente-nous la foi. Et donc, nous sommes en train de voir que la foi dont il est question et cette capacité qui nous vient de la part du Seigneur et qui nous permet d'expérimenter le surnaturel. C'est donc la foi qui nous permet d'entrer dans la dimension où nous vivons, nous expérimentons à des moments bien précis par rapport à des besoins bien précis où nous expérimentons la gloire et la puissance du Seigneur. Amen. Augmente-nous la foi. Comment voir l'invisible? La foi de Dieu, la foi en Dieu. C'est donc le 8e épisode. Nous allons relire, sans plus tarder, notre texte de base, à savoir Luc chapitre 17, à partir du verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Qui de vous, s'il a un serviteur qui laboure ou fait paître les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, « Viens tout de suite te mettre à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi le repas, mets-toi en tenue ou ceins-toi pour me servir, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Aura-t-il de la reconnaissance envers ses serviteurs, parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Comment voir l'invisible? C'est une chose, comme je l'ai déjà dit, ou j'ai eu à le dire plusieurs reprises, c'est une chose de savoir que nous sommes environnés par un monde invisible avec ses réalités, des réalités vivantes qui nous échappent, qui échappent à nos sens naturels. C'est une chose de savoir que Dieu a un héritage de choses extraordinaires que nous ne voyons pas. C'est une chose de savoir que Dieu est tout puissant, ce Dieu-là, il est invisible. Nous ne pouvons pas les saisir avec nos sens naturels. Mais ça n'est une autre, mes amis, de savoir comment. Comment pouvons-nous voir ce qui est au-delà du visible? Comment pouvons-nous saisir ce qui est au-delà du tangible, ce qui est au-delà du palpable? Eh bien, c'est là que ce texte devient plus que pertinent. Voyez-vous? Nous avons vu depuis maintenant plusieurs dimanches, il faut absolument deux ingrédients pour que nous remplissions en amont toutes les conditions qui nous permettent de vivre en aval la puissance de la foi. Expérimenter en aval, eh bien, un déferlement, un jaillissement de puissance extraordinaire qui déplace les montagnes, qui nous donne des solutions là où il n'y a pas de solution, qui ouvre le chemin là où tout est obscur, qui confond nos adversaires, quels qu'ils soient. La foi. Et puis ensuite, le renoncement de soi. Alors, nous sommes depuis plusieurs dimanches, donc, en train de parler de la foi. Et donc, dans cette parabole que nous venons de lire, nous trouvons des enseignements concernant cette foi dans le miracle. Avant d'aller plus loin, c'est peut-être quelque chose que j'aurais dû souligner dès l'entame de ce thème. Quand les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. En français, c'est le mot d'impératif, n'est-ce pas? Augmente-nous. En français, nous n'avons qu'un seul type d'impératif pour exprimer un ordre. Pour exprimer une demande, une requête, peu importe. Nous n'avons qu'un seul type, un seul type d'impératif. Pour demander à quelqu'un de manger, je lui dirais mange ou manger. Partir dit part. Venir, viens. C'est tout. Voilà. Là où nous n'avons que cette seule forme-là, eh bien le grec, lui, mes amis, avec sa langue très très riche, a d'autres manières de formuler, eh bien, cette demande, cette exhortation ou cet ordre-là. Il y a d'un côté l'impératif présent, comme en français, mange, bois, viens, va, venez, partez, combattons, etc. En grec, vous avez l'infinitif présent qui exprime une action dans la durée. C'est-à-dire un grec, le grec ancien, quand il disait « mange », eh bien, il y avait deux possibilités. Première possibilité, il utilisait l'impératif présent avec une valeur durative. C'est-à-dire « mange et continue de manger ». C'est-à-dire « ça dure ». Vous voyez ? Ce n'est pas quelque chose de ponctuel. Et la deuxième possibilité, c'est justement cet impératif aoriste qui exprime une action de manière ponctuelle. Mange, c'est-à-dire mange une fois. Donc il n'y a aucune notion de durée. Voilà. Et en cet endroit, augmente-nous la foi, eh bien nous trouvons ce deuxième impératif, qu'on appelle, c'est un terme technique, impératif aoriste. C'est-à-dire augmente-nous la foi. Ça indique une action ponctuelle. Si vous aviez de la foi, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et jette-toi dans la mer et il vous obéirait. Si vous aviez de la foi, vous diriez à cette montagne, eh bien, déracine-toi et jette-toi dans la mer. Et donc, c'est une foi ponctuelle. Alléluia. C'est-à-dire qu'à un certain moment de notre vie, face à des problèmes, face à quelque chose qui nous dépasse, à une montagne, face à ceci ou à cela, eh bien, le Seigneur suscite cette foi en nous qui nous fait entrer dans le surnaturel et à partir de là, eh bien, nous ordonnons, nous décrétons, nous demandons au problème, eh bien, de disparaître. Et nous voyons les choses s'accomplir comme nous l'avons proclamé, nous l'avons déclaré. Alléluia. Et donc, ce n'est pas une foi qui est permanente. Hein. On regarde quelque chose, allez, déracine-toi. Voyez un peu. Non, ça naît dans certaines conditions par rapport à certains besoins. Et donc, nous sommes en train d'examiner ces conditions que nous devons absolument réunir. Des conditions qui doivent être rencontrées en amont si nous voulons expérimenter cette foi-là du surnaturel, ou cette foi qui nous fait entrer dans l'univers de l'invisible. Car n'oubliez pas que l'invisible a toujours préséance sur le visible. Eh bien, cette foi-là ne nous tombe pas sur la tête comme une mangue au cours d'une tempête. L'arbre est secoué et puis tout d'un coup, il y a une mangue qui s'arrache, qui tombe sur notre tête. Et puis, nous ramassons la mangue et nous nous mettons à la manger. Non, pas du tout. Elle naît dans certaines conditions. Voilà toute l'importance de comprendre, mes amis, l'enseignement fondamental que le Seigneur a donné à ses disciples, qui nous donne encore aujourd'hui, et ce, en réponse à cette requête, donne-nous, augmente-nous la foi. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Et donc, avant d'avancer, je me permets de vous rappeler que l'enseignement principal que nous trouvons dans cette parabole, cette petite parabole, eh bien, où nous trouvons d'un côté le maître qui a des biens, qui a des troupeaux, qui a un champ, et de l'autre côté un serviteur avec sa condition d'esclave qui est donc chargé à être actif dans les biens de son maître. Et puis ensuite, quand il revient, il doit encore prendre soin de la personne de son maître. Et donc, cet enseignement s'articule autour de ces deux grandes vérités. Il y a d'abord la condition, eh oui, la condition du serviteur. Nous l'avons vu. Le serviteur est appelé à être l'esclave de son maître. Il est appelé à dépendre totalement, entièrement de son maître et dans tout le domaine de sa vie. En d'autres mots, sa vie n'a de sens que dans la mesure où il reste dans la relation de dépendance de son maître. La condition, voyez-vous. S'il oublie qui il est, il passerait, mes amis, à côté de la volonté de son maître. Et il se priverait de tant de choses. Le maître a dit, tu boiras, tu mangeras, tes besoins, quels qu'ils soient, seront rencontrés. Mais à condition que tu remplisses, que tu fasses certaines choses en amont. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc il y a la condition du serviteur. Nous en avons parlé. Il est esclave. Et il doit tout faire pour plaire à son maître. Il ne doit jamais, à un certain moment de sa vie, étant donné le nombre d'années passées au service de son maître, croire que les biens de son maître, quelque part, lui reviendraient. Et non, mais non. Ça reste toujours les biens de son maître. Alléluia. Il est là simplement comme intendant, comme nous allons le voir, chargé de rendre des comptes à celui à qui appartiennent toutes ces choses. Oui, condition du serviteur. Et puis ensuite, la deuxième vérité, c'est la relation du serviteur avec son maître et la relation du maître avec son serviteur. Donc le relationnel est au cœur, mes amis, de cet enseignement. Voyez-vous, si nous ne comprenons pas cela, eh bien, nous passerons à côté de toutes ces perles, toutes ces vérités spirituelles qu'il y a et dont nous avons besoin. Alléluia. Oui, la relation. La relation. Dieu est relationnel. Il veut que nous apprenions à vivre en société avec lui. Si nous ne travaillons pas notre relation, eh bien, nous courons le risque de faire faillite dans notre vie, d'aller au-devant de toutes sortes de problèmes. Voyez-vous? Notre relation avec le Seigneur, notre communion avec lui devrait nous préoccuper outre mesure, devrait être considérée par chacun de nous comme étant la priorité. Alléluia. Après avoir examiné la condition du serviteur, aujourd'hui nous allons commencer à examiner sa relation. Car au cœur de tout ça, il y a sa relation, non seulement avec son maître, mais aussi sa relation avec les biens de son maître, avec ce qui appartient à son maître. Le serviteur a une relation. Et nous verrons quel type de relation. Avec tout ce qui appartient à son maître. Car son maître possède des biens. Son maître a un patrimoine. J'aime beaucoup ce mot, hein, patrimonium. C'est un message qu'on verra beaucoup plus tard. Son maître a un patrimoine. Et lui, en tant qu'intendant, est appelé à administrer, à gérer, si vous voulez, ce patrimoine-là. Et à rendre des comptes à celui à qui tout lui appartient. Donc, le serviteur est appelé à s'occuper des affaires du maître. C'est un intendant. C'est un économe, dans le sens étymologique du mot. D'ailleurs, le mot économie vient de là. Oikos nomos, maison, loi. Vous voyez? Dont l'intendant. Et il est économe. Il doit gérer. Il doit administrer selon les lois de la maison. Oui ou non? Selon les valeurs de la maison. Ce n'est pas lui qui impose. Il doit agir selon les valeurs de la maison dans laquelle il est employé, selon les valeurs de son maître, selon les desiderata, selon les priorités de son maître. Alors, pour revenir à notre parabole, quelles sont les affaires du maître? Eh bien, nous voyons que le serviteur est appelé à labourer dans le champ du maître. Donc, le maître a un champ. Et il doit s'occuper de ses champs. Il doit donc entretenir ses champs. Il doit veiller à ce que tout ce qui a été planté puisse croître et produire du fruit, n'est-ce pas? Et donc, il doit s'occuper de cette responsabilité-là. Le champ appartient au maître. Et lui, il est appelé à labourer. C'est ce que nous avons vu, voyez? Quand il revient de champ, donc il a été au champ, non pas pour aller dormir, en disant, oh là là, je fouille le maître, il est trop exigeant. Quand je suis au champ, eh ben, je peux dormir calmement. Non, pas du tout. Labourer, travailler, œuvrer dans le champ de son maître. Le champ du maître. Et la deuxième activité à laquelle il doit s'adonner, c'est qu'il doit faire paître les troupeaux du maître, dont le maître a un élevage. Nous avons là deux activités vitales de l'époque, évidemment. Voyez, deux grandes activités. Toute l'économie à l'époque était fondée là-dessus. Il y avait le commerce et tout ça, mais enfin, pour vivre, il fallait cultiver, il fallait faire l'élevage. Et donc, deux activités vitales, deux activités importantes, le labourage et l'élevage, avec tout ce que cela implique. Et donc, nous voyons que ce serviteur-là est appelé à être actif. Il est destiné à être très actif dans les biens, dans les choses qui appartiennent à son maître. Et gloire à Dieu. C'est donc l'activité du serviteur. Il n'est pas appelé à être inactif, un paresseux, un fainéant. Ah non. Il est appelé à faire ce que le maître attend de lui. Et le maître, oh, c'est un grand maître. Il a tout un patrimoine. Et l'intendant doit administrer, doit gérer ses patrimoines. C'est d'ailleurs ça le sens de l'intendant. Un intendant, c'est une personne qui administre, qui gère les biens de quelqu'un. Voyez-vous? Ça peut être aussi le patrimoine de la collectivité. Alors, on désigne quelqu'un pour gérer ce patrimoine-là de la collectivité. Donc, ce n'est pas son patrimoine. Lui, il est là simplement comme intendant, comme administrateur, comme un simple gérant. Alors nous voyons que l'immobilisme, l'inactivisme, la fainéantise ne devrait pas être le partage de ses serviteurs de la parole. Il doit s'occuper. Il doit être actif. Oh, alléluia. Nous voyons déjà une première piste qui se dessine. Voyez-vous, être actif. C'est ça le service de l'esclave. C'est ça le service de celui qui appartient entièrement, totalement à son maître. Il doit faire. D'ailleurs, le maître lui dit, vous de même, le maître dit, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait que ce que nous devions faire. D'être actif. Être actif. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas des spectateurs dans son église. Mon frère, ma sœur, c'est une condition fondamentale. Si nous voulons que quelque chose se passe en aval, nous devons apprendre à être actifs comme ce serviteur. Il est au service de son maître, premièrement. Mais il est aussi au service des biens de son maître. Le champ, il doit travailler le champ du maître et dans le champ du maître avec tout ce que cela implique. Voilà. Il ne pourra jamais revenir dire au maître, maître s'il te plaît, viens m'aider à enlever un peu ces cailloux, je suis fatigué. Voyez-vous? Il doit s'attendre à ce que le maître lui tende la main pour lui demander le rapport. Si toi as été bien fait, et gloire au Seigneur. Alors quelle est la leçon pour nous? Quelle leçon par rapport à cette demande des apôtres, augmente-nous la foi. Mes amis, nous devons savoir que Dieu nous appelle à être actifs dans son œuvre. Ne soyez pas de ceux qui viennent, qui louent et puis qui s'en vont. Et qui attendent le dimanche prochain pour revenir. Voyez-vous? Et puis qui repartent. Dieu nous appelle à être actifs. Et pour nous permettre, mes amis, d'être ou à être actifs dans ses biens, il nous a doté des talents. Il nous a doté des dons. Bref, il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir, mes amis, être utiles dans ses biens. Et gloire au Seigneur. Alléluia. Être actif dans les choses de Dieu, dans ce qui appartient au Seigneur. Voilà pourquoi il nous donne des dons. Voilà pourquoi il nous donne des talents. Voilà pourquoi il nous donne la puissance de son Saint-Esprit. Ce n'est pas pour que nous puissions utiliser tout cela comme des Oscars que nous aurions reçus de sa part, vu notre spiritualité, vu notre engagement et tout ça. Tout ça nous est donné pour que nous puissions servir, oh alléluia, nous puissions servir dans l'œuvre de Dieu et servir l'œuvre de Dieu. Quelles sont ces choses? Deux images importantes, deux images pertinentes qui illustrent, mes amis, la réalité de l'œuvre de Dieu. On peut en trouver d'autres, hein, mais je vais me limiter seulement à ça. Il y a d'un côté le champ du Seigneur, n'est-ce pas? Il y a de l'autre côté le troupeau du Seigneur. Et pour chaque domaine, que ce soit pour le labourage, que ce soit pour l'élevage, eh bien l'ouvrier devra s'y prendre autrement, n'est-ce pas? Et donc, s'il est avec le troupeau, il doit savoir ce qu'il doit faire exactement par rapport au troupeau. S'il est dans le champ, il doit savoir exactement ce qu'il doit faire. Lisons 1 Corinthiens 3, versets 6 à 9. Paul s'adresse à l'église de Corinthe. 6 à 9. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Alléluia. Personne ne peut faire le travail de Dieu par lui seul. Voyez-vous? Personne. D'ailleurs, pour préparer la relève, le Seigneur a appelé 12. Et puis après le 12, il y a eu 70. Ainsi de suite. Au jour de la Pentecôte, il y en avait combien? 120. Et puis il y a eu 3000, 5000, etc. Et donc, j'ai planté. Apollos a arrosé. Mais Dieu a fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Alléluia. Selon l'appel, eh bien, l'un sème, l'un plante, et puis l'autre passe pour arroser. Ce n'est ni le planteur, le semeur, ni l'arroseur qui est important, mais plutôt Dieu. Dieu qui fait croître. Car la semence vient de Dieu, oui ou non? Les capacités pour le semeur et pour le comment? L'autre, eh bien, ces capacités leur viennent de la part du Seigneur. Voyez-vous? Parce que il y en a qui pensent que ceux qui commencent l'œuvre sont plus grands que ceux qui vont reprendre l'œuvre plus tard. Un pasteur m'avait dit, ou il avait écrit sur Facebook à l'époque, d'ailleurs, Bondo, qu'est-ce qu'il a à dire? Ce n'est pas son église. Il a repris l'église. Quand quelqu'un tient de tels propos, c'est qu'il n'a rien dans la tête. C'est vrai. Imaginez-vous un peu, si nous devions appliquer ces principes, l'église aurait disparu. Paul plante l'église, il reste, et quand il meurt, il n'y a personne qui reprend. Donc, parce que chacun doit commencer l'œuvre. Et je vous dirais même, il est beaucoup plus difficile de reprendre une église que d'en commencer une. Ce que je vous dis est vrai. Voyez-vous? Commencer une église à Kinshasa, c'est pas un problème, hein. Surtout dans le cadre de l'église, des églises de la borne. Vous allez quelque part, vous plantez, vous mettez un panneau, extension de la borne. Et à cause de la visibilité que nous avons, les gens vont faire quoi? Ils vont venir. D'autres vont même plus loin, malheureusement. Alors que le fleuve est là, avec beaucoup de poissons, et ils vont aller piocher. Ils vont aller pêcher dans les aquariums des voisins. Voyez? Voyez? Quand vous reprenez une église, ça j'appelle les pasteurs. Tous ne sont pas appelés à commencer une église. Dieu nous a préparés dès le départ. Depuis notre départ d'ici pour l'Europe. Voyez? Nous n'avons travaillé que dans des églises dont certaines étaient abandonnées, qu'on a reprises. On a commencé à travailler. Voyez-vous? Dieu nous préparait pour un jour revenir ici. Quand vous reprenez une église, vous ne reprenez pas seulement le bâtiment, hein. Vous reprenez des gens avec leur caractère. Vous reprenez une vision qui était orientée d'une certaine manière, n'est-ce pas? Vous reprenez les problèmes. Vous reprenez les actifs et les... Allez gérer ça. Hein. Voyez-vous? Quand vous arrivez, ceux qui étaient là avant disent non, le pasteur ne faisait pas ça. Moi, j'ai entendu ça. Voilà. Heureusement, j'étais préparé. Je pouvais comprendre. Pour certains, il a fallu beaucoup de temps pour réaliser que le pasteur était parti pour un voyage de non-retour. J'ai eu à dire à certains, j'ai dit, écoutez, vous me donnez l'impression que le pasteur est parti pour un voyage. Mais vous pouvez l'attendre, hein. Vous pouvez l'attendre. Jusqu'au jour où il reviendra. Voyez? Et donc, l'un sème, l'un plante, l'autre vient arroser. Ce n'est ni celui qui sème, ni celui qui arrose, qui est beaucoup plus important, mais Dieu qui fait, à lui soit la gloire. Nous continuons. Verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur. Car aujourd'hui, il y a beaucoup d'accent sur les visionnaires. C'est comme s'ils étaient spéciaux. Qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui plante et celui qui arrose, chacun recevra sa propre récompense. Alors quand on doit présenter quelqu'un, c'est le visionnaire de ceci. Alors imbu de lui-même, fier comme un paon ou Artaban, le visionnaire se lève. Il regarde. En lui-même, il se dit, tout ça, c'est grâce à moi. Malheureux. Grâce à toi, tu n'es qu'un outil dont Dieu s'est servi. Quand tu as fait ça, dis comme le Seigneur le dit, je n'ai fait que faire ce que je devais faire. Chacun recevra sa récompense. C'est pourquoi ne cherche pas à imiter l'autre. Ne cherche pas à te comparer l'autre. Essaye de trouver ce à quoi le Seigneur t'a appelé. Voyez-vous. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir des pasteurs assistants qui restent 10, 15, 20 ans. Au bout d'un certain temps, allez, ils veulent voler de leurs propres ailes. Attention. Il y a des gens qui seront dans l'église et qui continueront à servir comme Aaron ou Hur pour aider les leaders. Et chacun recevra sa part de bénédiction. Voyez. Mais aujourd'hui, tout le monde veut partir. Et c'est comme ça que des églises commencent, au bout d'un certain temps, disparaissent. Voyez-vous? Comme un feu de paille. Tout le monde veut avoir être à la tête d'une église. Si tu n'es pas appelé, mon frère, assis-toi dans l'église. Contente-toi d'assister, de prêcher, etc. Et nous continuons. 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Et celui qui plante, celui qui sème et celui qui arrose sont tous ouvriers avec qui? Car c'est Dieu qui nous rend capables, mes amis, de semer. En plus, ce n'est pas notre semence. Pourquoi s'enorgueillir? Ce n'est pas notre moisson. Regardez les apôtres, ils ont travaillé, ils sont partis. Aucun n'a pris le risque de dire, voilà, je vais laisser ma femme continuer l'œuvre. Hein? Nous devons arrêter avec ces choses. Nous vivons des temps très difficiles. Le Seigneur revient très bientôt. Pour peu qu'on ait un caractère un peu de chien, un caractère tout forgé, eh bien, on devient prédicateur. et on parle avec beaucoup d'horreur. Et toi, viens. Allez, répands-toi. Ce sont les âmes pour lesquelles Jésus est mort. Un peu de respect. Le Seigneur lui-même vous respecte. À combien plus forte raison nous, qui ne sommes que des humains, logés à la même enseigne que vous. Voyez. Et donc, nous sommes ouvriers avec Dieu. Et il ajoute, vous êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu. Le champ de Dieu. Nous sommes le champ de Dieu. L'église de Corinthe était le champ de Dieu. Et que devons-nous faire d'un champ? Un champ est fait pour accueillir la semence, n'est-ce pas? Et puis voir cette semence germer et produire du fruit, selon son espèce. Mais tout cela demande du travail. Avant qu'on se mette à semer, il y en a qui vous précèdent pour aller enlever les mauvaises herbes. Ils travaillent. Ils font ce que Dieu leur a demandé de faire. Les missionnaires sont venus il y a presque 100 ans d'ici. Ils sont venus ici chez nous au Congo. Ils ont prêché l'évangile. Ils n'ont pas laissé des grandes églises comme c'est le cas aujourd'hui. Mais ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Alléluia. Il y en a qui ont été mangés par des cannibales. Il y en a qui sont morts, tués par des bêtes. Comme ces missionnaires américains qui avaient été tués par un lion dans les Kivus à l'époque. Voyez-vous? J'étais avec un pasteur, il y a quelques années, qui m'avait raconté cette histoire. Il était dans un forum chrétien, dans une conférence. Et là, il avait rencontré, quand on le présente comme venant du Zaïre à l'époque, il voit quelqu'un, un pasteur, s'approcher de lui, de lui dire, tiens, vous venez du Zaïre. Il dit, oui, oui, oui. Il dit, vous savez quoi? Mes grands-parents avaient été missionnaires là au Zaïre, dans le Kivu à l'époque. Mais mon grand-père faisait le porte-à-porte. Il allait de village en village prêcher l'évangile. Et une nuit, il était sorti. Il est tombé sur un lion. Le lion l'a tué. Voyez-vous? Il y en a qui sont morts, mais qui n'ont pas laissé des grandes œuvres comme ce n'est qu'à aujourd'hui. Mais ils avaient laissé la semence. Il y en a qui avaient simplement débroussaillé. Enlever la mauvaise herbe, enlever les cailloux, les ronces, les épines, voyez-vous? Et puis comme nous ne sommes pas éternels, ce travail de débroussage leur a pris beaucoup de temps. Il y en a qui sont morts, qui ont laissé le lieu débarrassé des mauvaises herbes, débarrassé des épines. Et puis d'autres sont arrivés, ils ont commencé à labourer, à apprêter la terre, vous voyez? Ils ont continué le travail. Et puis d'autres sont venus. Ils ont semé. Ils ont vu à peine quelques plantes, mais pas la majorité de ces mailles. Et puis ils sont partis. D'autres sont arrivés. Ils ont arrosé. Et puis après, ça poussait. C'est pourquoi c'est très difficile de dire que c'est moi qui ai gagné telle personne à Christ. Tu ne sais pas le travail qui a été fait en amont. Tous ceux qui ont prié à toi, tous ceux qui ont jeûné pour cette personne, pour ses collègues-là, toi tu ne le sais pas. Voilà. Ceux qui sont passés avant toi, quelqu'un leur avait parlé du Seigneur, mais ils avaient manifesté un désintérêt total. Ils disent non, ça c'est pas pour moi. Mais ils ont continué. Et puis après, ben le monsieur restait dans ses péchés et tout ça. Et puis quelques années plus tard, par un concours de circonstances, toi tu passes par là, tu lui parles du Seigneur. Tout d'un coup, l'homme se met à pleurer. L'homme réalise sa nature pécheresse, sa nature sombre, sa culpabilité. Crie à Jésus, et puis tu le conduis à la prière de repentance, et puis il accepte le Seigneur, et après tu es tout content. C'est vrai, mais tu ne sais pas le travail qui a été fait en amont. Tu ne sais pas à combien de temps certains ont jeûné pour cet homme-là, directeur de telle ou telle autre entreprise. Voilà. Toi, tu arrives et après, tu commences à te vanter. Tu veux utiliser ces témoignages partout. Ah, c'est comme ce directeur-là. Un grand directeur.
Il était là. Je l'ai regardé. J'ai prié en langue. Je l'ai regardé. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Tout d'un coup, il a commencé à pleurer. Quelle onction! Oui, mais d'autres étaient déjà passés avant. Heureusement que Dieu est juste. Fais ce que Dieu te demande de faire. Tu pries pour quelqu'un, sa conversion tarde. Ne baisse pas les bras. Voyez, fais ce que Dieu te demande de faire. Tu es là pour semer dans la prière. Tu es là pour semer par l'évangélisation, mais tu ne vois pas les résultats. Et puis un jour, quelqu'un d'autre passe par là, lui voit le résultat. Eh bien, devant Dieu, vous êtes tous, comment? Vous avez fait chacun ce qu'il devait faire, et chacun recevra sa récompense. Nous sommes le champ de Dieu. Mes amis, il y a tant de choses à faire dans le champ, tant de choses à faire dans l'église. Voyez-vous? Et si vous voulez remplir une des conditions pour que cette foi-là naisse, eh bien, prends la résolution d'être actif. Car quel que soit notre appel, pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, diaconesse, ancien ou diacre, ou fidèle seulement, n'ayant aucune responsabilité dans l'église, eh bien, nous devons savoir une chose, c'est que le Seigneur nous a adressé une vocation commune. Quelle est cette vocation-là? C'est d'être actif dans son œuvre. Alléluia. Sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan social, sur le plan physique, nous le verrons. Voyez-vous? Car l'Église, c'est pas seulement le spirituel. L'Église, c'est aussi les gens, n'est-ce pas? Tels que vous êtes là. L'Église, c'est aussi les bâtiments. Et donc, nous devons assumer toutes ces responsabilités-là. En d'autres mots, être actifs. Car nous sommes des intendants. Tu es appelé à jouer un rôle dans cette église. Il faut pas dire, ah oui, mais moi, je ne vois pas où je pourrais m'engager. Non, nous avons des départements. Voilà. Même avant même de t'engager, tu peux prendre la résolution d'être un témoin de Christ auprès de tous tes amis. Commencez à évangéliser, alléluia. Commencez à aller prêcher Christ un peu partout. C'est aussi être actif dans l'œuvre du Seigneur. C'est aussi prendre soin des âmes pour lesquelles Jésus a donné sa vie. Il y a mille et une choses à faire dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes des intendants. Nous sommes donc chargés d'être actifs dans les biens de notre Seigneur. 1 Corinthiens 4 nous le dit. 1 à 2. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Le terme qu'on a traduit dans cette version par administrateur, c'est le même terme qu'intendant. D'ailleurs, il y a certaines versions où c'est le mot intendant qui apparaît. Du reste, ce qu'on demande des intendants, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Quand on parle de fidélité, on parle de notre attitude vis-à-vis des choses que le Seigneur nous a confiées. Alléluia. Eh bien, nous sommes des intendants, voyez-vous. Nous ne sommes pas appelés à venir, à consommer et puis à partir. Nous sommes appelés à être actifs, actifs dans l'œuvre de Dieu, actifs d'une manière ou d'une autre, sur le plan spirituel, avec nos dons spirituels. Oui, le Seigneur nous a donné des talents. Il répand ses dons au milieu de nous pour l'édification de son corps. Alléluia. L'édification de l'Église. Chacun a reçu sa part, sa responsabilité. Il y en a qui ont reçu 5 talents, d'autres 2 talents, d'autres 1 talent. Voyez-vous? Donc des parts inégales. L'inégalité n'est pas l'injustice. Dieu a donné à l'un 5 talents, à l'autre 2 talents, à l'autre 1 talent, en fonction des capacités à faire valoir ces talents-là. Dieu nous connaît. Il sait ce que nous sommes. Et il nous donne. S'il nous a donné un talent, c'est pas un problème. Le problème ne réside pas dans le nombre des talents, mais dans la manière de valoriser ces talents. Dans la manière, mes amis, de servir l'œuvre de Dieu à partir de ce seul talent que nous avons reçu de la part du Seigneur. Celui qui a reçu un talent, ben, rendra compte pour son talent. Celui qui en a reçu deux, rendra compte pour deux talents. Celui qui aura reçu cinq, il rendra compte pour cinq talents. Vous voyez que le Seigneur sera beaucoup plus exigeant pour ceux qui auront reçu beaucoup. Voyez-vous? Alors ne dis pas, oui, mais moi j'aurais aimé être comme celui-ci ou comme celui-là. Non, ça serait insulter le Seigneur. Il sait pourquoi il t'a fait comme tu es. Ne serait-ce que sur le plan physique. Quand je vous regarde, quand nous nous regardons, ben nous sommes différents les uns des autres, oui ou non? Ben oui. Et sur le plan spirituel, le Seigneur nous connaît. Et il nous donne nos talents selon la capacité que nous avons à faire valoir ces talents-là. Voyez-vous? Donc, sur le plan spirituel, nous sommes en plein être actifs. Pour ceux qui ont reçu le ministère de pasteur, de prophète, de docteur, d'enseignant, eh bien, ils sont appelés à prêcher l'évangile. Ils sont appelés à prêcher la parole de Dieu. Non pas à utiliser la parole pour endormir les gens, pour les manipuler, pas du tout. Pour les vassaliser, comme certains pasteurs aujourd'hui, qui vassalisent leurs fidèles, qui les manipulent. Voyez? Et les gens, les fidèles sont là, comme je l'ai dit l'autre fois, comme des pitbulls, qui veillent sur leur maître. Il faut rien dire, hein. Le maître a raconté de sornettes, de bêtises? Non! Vous dénoncez ça, eh bien, on lâche des pitbulls pour courir après vous. Voyez. Dieu ne nous appelle pas au fanatisme. Le fanatisme est une forme d'obscurantisme que nous devons combattre absolument. Alléluia. Nous n'avons pas besoin des fanatiques. Le Seigneur n'a pas besoin des fanatiques. Un fanatique, il est là complètement. Il suit tout ce que son maître lui dit. Il regarde le ciel, tiens, il fait rouge. Ah, c'est vrai. Hein? Ah oui, c'est comme le sang. Voilà. Il répète, comme un perroquet, le jugement de son maître, l'appréciation de son maître. Voyez-vous, nous sommes appelés à être actifs dans la prière envers l'Église. Prendre du temps dans l'intercession, c'est être actif dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Tu peux. Tu n'as pas besoin d'adhérer forcément à notre département d'intercession, mais nous sommes tous appelés à être des intercesseurs pour notre couple, pour notre famille, intercesseurs pour l'Église, pour notre ville de Kinshasa, pour le pays, pour le monde. Nous devons prier, oh alléluia, en prenant du temps. Eh bien, nous sommes en train de nous rendre actifs par rapport à l'œuvre de Dieu. L'engagement dans tel ou tel autre ministère, regardez, ils chantent. Tout à l'heure, nous avons dansé avec leur belle voix. Ils nous ont pris et nous ont déposé dans la présence du Seigneur. À partir de ce qu'ils ont reçu de la part du Seigneur, eh bien, ils contribuent à faire avancer l'œuvre de Dieu. Je suis convaincu que certains, ceux qui sont venus avec des problèmes, qui étaient tristes, des cœurs remplis de remords, quand ils les ont entendus chanter, louer, adorer, quelque chose s'est passé dans le cœur. En cela, ils ont contribué, oh alléluia, à faire manifester la présence de Dieu dans votre cœur. Et donc, vous pouvez vous impliquer au niveau de la chorale, au niveau du département d'évangélisation, vous engagez parmi les hommes, parmi les femmes, à la jeunesse, mes amis, à l'écodime, voyez-vous, être actif. Dieu est contre toute forme de fainéantise. Tu veux cette foi-là, que Dieu te la donne de manière ponctuelle, par rapport à tel ou tel autre besoin, tu dois remplir cette condition d'être actif dans les biens du Seigneur. Alléluia. Et gloire au Seigneur. évangéliser. Il ne faut pas attendre que nous organisions des réunions d'évangélisation. Oui, nous allons les avoir, puisque cette année, nous allons démarrer notre vision, fondée à la fois sur l'évangélisation et le réveil de l'Église. Et donc, ça sera une mobilisation totale, non seulement de la borne ici, mais d'autres assemblées qui ont accepté et qui accepteront de nous donner la main d'association. Mais en attendant, vous êtes appelés à être des témoins. Soyez mes témoins. Là où vous travaillez, là à l'université, auprès de vos collègues ou de vos consoeurs, apportez-leur l'évangile. Faites tout pour les attirer à Christ. Moi, je bénis Dieu. Aussitôt que je fais cette expérience avec le Christ, j'ai compris tout de suite l'importance d'être actif. Et le premier domaine dans lequel j'étais très actif, c'était l'évangélisation. Voilà. J'ai dit, Seigneur, le diable m'a tellement humilié, le diable m'a tellement conduit loin de toi, que maintenant, je te prie de m'aider à aller chercher tous mes vieux copains. Eh oui. Tous ceux que j'ai connus autrefois, avec qui on traînait, on prenait, on allait boire, on allait danser, on allait dans des casinos à l'époque et tout ça. Aide-moi à aller les chercher. Peu importe leur conviction philosophique. Peu importe leur religion. Et croyez-moi, je l'ai fait. À un moment, pour me décourager, ils avaient commencé à me coller toutes sortes de colibés, de non, tiens, le curé là, ah là, lui, il vient, il a toujours sa Bible. Voilà. Oh, les moelis, moi, là. Ouais. Voilà. Tout ça pour me décourager. Il fallait pas m'approcher. Autrefois, ceux qui ont évolué avec moi à Maranatha savaient, j'utilisais cette expression très forte, griffer les gens avec l'évangile. Griffer. Manzac, c'est ça? Ah oui, quand vous griffez quelqu'un, il y a toujours des traces. Hein. Et non pas saupoudrer les gens avec quelques paroles tirées de l'évangile. Quand vous saupoudrez quelqu'un, il fait quoi? Il fait ça. Poudre nyonso, écueil. Mais quand vous le griffez, makila et tangi. J'allais évangéliser partout, dans les hôpitaux. Et puis par la grâce de Dieu, on avait commencé cette œuvre Action évangélique Maranatha, dont certains peuvent se rappeler. On a eu affaire des porte-à-porte là en Dolo. On avait un ministère tourné vers les musulmans. Et à l'époque, il y en avait beaucoup là au Bon Marché. Voyez-vous. On avait gagné quelques-uns qu'on utilisait. Voilà. On a organisé des plein air en Dolo là, vous voyez. Et on leur donnait l'occasion de témoigner. Et on invitait d'autres musulmans, dont certains finissaient par donner leur vie au Seigneur. J'étais tellement zélé qu'au cours d'un porte-à-porte, je suis parti sur l'avenue, oh là là, il y a Flambeau et puis l'autre là, qui part de Beaumarchais vers Lingwala. Kabambar. À l'époque, il y avait un couvent des sœurs religieuses. Je ne sais pas si le couvent est toujours là. Je me souviens quand on s'engageait, quand on venait de Beaumarchais, le couvent était à droite. On a évangélisé dans mon zèle là. Je suis parti au couvent. J'ai frappé au portail. Boum, 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 boum. Et puis il y a une sœur religieuse qui vient, qui ouvre un peu la petite fenêtre. Elle dit oui. Elle dit voilà, est-ce qu'il y a moyen de m'ouvrir parce que je viens vous parler du Seigneur. Elle dit, quoi? Elle dit, oui, oui. Elle dit, je viens vous parler du Seigneur. Elle dit, mais ici, c'est un couvent. Elle dit, ça n'a rien à voir. Vous devez croire au Seigneur. Vous devez le recevoir. En même temps, elle m'a claqué la porte. Et donc, je suis reparti. Il fallait griffer les gens. Vous voyez? Ce n'est que plus tard, après avoir organisé des rencontres d'évangélisation, à l'hôtel intercontinental actuel Pullman. Voyez, des réunions d'évangélisation à la Gombe. Voyez-vous, avant même qu'il y ait la parole du salut, qu'il y ait l'action évangélique de la Gombe et tout ça, on a eu affaire de plein air là-bas. Ce n'est qu'après que le pasteur m'appellera. Il me dira, je vois que vous avez un appel d'évangéliste. Nous allons alors démarrer un département d'évangélisation. Vous voyez? Donc, nous n'avions pas attendu. Et depuis, le département d'évangélisation a vu le jour et on a commencé à organiser des réunions d'évangélisation, notamment à Télécom à l'époque, et puis tant d'autres. Donc vous voyez, mes amis, nous sommes appelés à être actifs. Actifs dans les choses de Dieu, sur le plan spirituel. Si nous remplissons ces conditions, nous aurons fait un grand pas dans les biens du Seigneur. Mais cette relation, ce n'est pas seulement de l'esclave, du serviteur, envers les biens de son maître, mais c'est aussi et surtout sa relation avec son maître. Car quand il a pris soin de tout ce qui appartient au Seigneur et qu'il rentre à la maison près de son maître, malgré la fatigue, c'est ça la consécration. Il s'attend à ce que le maître lui dise, oh là là, tu as travaillé aujourd'hui, il a fait très chaud, hein. Regarde comment tu transpires comme un porc. C'est incroyable. Viens. Écoute, va d'abord te laver et tout ça. Non. Quand il arrive, le maître lui dit, très bien, tu as fait ça pour mes biens. Maintenant, tu dois t'occuper. Sainte-toi, change de vêtements. Tu avais la tenue pour s'occuper du champ, la tenue pour s'occuper des bêtes. Maintenant, mets une autre tenue pour pouvoir me servir, me donner à manger, me donner à boire. Voilà ce que le serviteur doit faire. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Nous bénissons ton nom pour toutes ces vérités en rapport, Seigneur, avec la foi. Cette foi, Seigneur, appelée à nous faire entrer dans l'univers des miracles. Seigneur, à nous faire entrer dans le surnaturel. Et pour cela, nous devons, Seigneur, assumer pleinement notre condition d'esclave vis-à-vis de toi. Comme tu l'as dit toi-même, si quelqu'un veut être mon disciple, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Eh oui, un esclave, c'est quelqu'un qui a renoncé à sa dignité, qui a renoncé à tout pour appartenir à son maître. Et puis ensuite, tu nous demandes de prendre chacun sa croix. Et puis enfin, seulement, ce maître, Seigneur, nous mettre à te suivre. Oh, aide-nous. Aide-nous à nous occuper de choses en rapport avec ton œuvre. À être actif, Seigneur, dans ton champ, ô Dieu. À être actif, Seigneur, parmi ton troupeau. Voilà ce que tu attends de chacun de nous. Et pour nous permettre d'être utiles dans ce domaine-là, tu nous as donné des talents. Tu as répandu sur nous toutes sortes de dons. Aide-nous à les valoriser, à être actifs. Merci pour tout. Merci de bénir aussi les offrandes, les dîmes, Seigneur, et notre soutien à la construction. Merci que ta gloire puisse se révéler, Seigneur, au milieu de nous, alors que nous faisons ce qui est juste à tes yeux. Merci pour tout. Amen.